Daf Ayin Dalet Amud Aleph Yuma. On va reprendre le dernier morceau de Gemara. Je vais reprendre ici un petit point. On avait raconté que Rech Lakish pense que Hatzi Shi'ur, il est mutar min la Torah. La Torah n'a pas interdit de manger un Shi'ur, manger moins qu'un Shi'ur. Ça veut dire, Rech Lakish pense Hatzishur mutar min la Torah, et Rabbi Yochanan pense Hatzishur asur min la Torah. Mais Rabbi Yochanan, il est d'accord que le Chayav Karet et le Chayav Malkut et le Chayav Korban, c'est seulement sur un Shi'ur. Quand la Torah nous dit ne mangez pas Chazir, ça veut dire l'interdiction, le lave, il est seulement pour ne pas manger Chazir Kezait. Rot Mikezait, il n'y a pas de lave. Il y a une interdiction de la Torah qui n'est pas un lave. C'est pas malchoute dessus. Et on n'est pas chayav karet dessus. Et si on a mangé, on n'apporte jamais de korban. Un homme qui mange un pachot mikezaït relef, il n'apportera pas de korban. Le korban, c'est seulement kezaït. Seulement, il y a un issour. Ça veut dire issour beaucoup moindre que de manger un chazir. Mais c'est quand même un issour minatora, un petit issour. Et là, je l'ai dit, la Torah ne fait aucun issour. Tu peux manger, tu rien transgresser. Seulement les chachamim, ils ont fait un issour. Ça, c'est la machloket. Ça, c'est la machloket de Rabbi Yochanan Rech Lakish. Alors, sur ça, la Gemara, elle avait apporté une Mishnah. Vis-à-vis de Shvoa, il y a deux sortes de Shvoa, la Gemara, elle a débattu. Une, elle s'appelle Korban Shvoa, une s'appelle Shvoa Taïdout. Il y a deux choses qu'un homme y prononce avec sa bouche, et s'il dit un sheker, alors il aura une kapara. La Torah exige une kapara. La première s'appelle Shvoat HaBitouy. Shvoat HaBitouy, c'est un homme qui s'engage. Il s'engage de manger ou il s'engage de ne pas manger. Par exemple, un homme il dit, je jure, aujourd'hui je ne mange pas. D'accord. Après, il a transgressé, il a mangé. Nimtsa que sa parole était un mensonge, une fausse voix. Alors, une fausse voix, eh bien, on est chayav. On n'a pas le droit de faire une fausse voix. On est chayav de faire un korban dessus. C'est marqué dans Parashat Vayikra. Maintenant, il y a un deuxième din, Shvoat HaEdut. Quand un homme, il est invité de faire un témoignage et il refuse. Mais s'il avait témoigné, il aurait pu rétablir la vérité. Rouven a volé d'argent chez Shimon. Rouven, il a fait un dégât à Shimon. Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Rouven, il a confié de l'argent à Shimon. Il y a des témoins qui savent la vérité. Mais ce Shimon, il est en train de nier. Et Rouven, il apporte le Shimon au Bedin. Mais je vous ai prêté. Non, c'est pas vrai. Vous m'avez pas prêté. Mais j'ai des témoins. Alors, apportez les témoins. Et Rouven, il dit au témoin, venez, témoignez que j'ai raison, et comme ça, l'autre, il va me payer. Et les témoins, c'est des lâches. Ils sont lâches. Ils veulent pas se fatiguer d'aller au Bedin, ou ils veulent pas s'embrouiller avec Shimon. Peut-être Shimon, c'est un homme avec une puissance. Ils veulent être bien avec lui. Ça se fait pas de parler contre lui. Donc, ils se taisent. Alors, le Bedin, il dit, vous connaissez ou vous connaissez pas? Non, non, on connaît rien, on n'a rien vu. Alors, le Bedin leur demande de jurer. Rouven lui demande, jurez-moi que vous connaissez pas. Alors, ils jurent, nous jurons que nous n'avons rien vu, on connaît pas. Voilà, ils ont juré. Une fois qu'ils ont juré, ça y est, l'autre, il a perdu son argent. Après, ils arrivent au Bedin, on a menti. En vérité, on connaissait. Maintenant, ils ne peuvent plus témoigner, c'est trop tard. Les témoins qui disent nous ne le savons pas, ils ne peuvent pas dire après que nous savons. Mais ils doivent faire une kapara, donc ils doivent faire un korban. Donc, ça, c'est le dîne des Shvoat Haïdout. Maintenant, on va revenir d'abord sur la Shvoat. Une seconde, il y a encore une troisième Shvoat de la Torah, Shvoat HaPikadon. Shvoat HaPikadon, c'est qu'on réclame à un homme. Il a volé d'argent, ou qu'on lui a confié d'argent, ou qu'on lui a prêté d'argent. Et l'homme, il dit, c'est faux. Et il jure faux. Il jure que l'autre ne m'a pas confié. Et après, il avoue qu'il a juré faux. qui en vérité il avait reçu d'argent, ça s'appelle Shvuat HaPikadon. Ça aussi, il faut Keren Chomesh Vacham. Ça, c'est le din de Hacham qui est marqué à la fin de Parshat Vayikra. Mais ce sujet, la Gemara n'a pas parlé ici. Maintenant, je reviens au premier sujet. On avait vu, il est marqué dans une Mishnah.
Là, j'ai une question.
Oui, j'écoute.
Juste par rapport à hier, ce qu'on avait dit, comme Ram Israël, il était dans le Sinaï, si un homme fait un serment de ne pas manger du porc, et après il mange du porc, comme vous avez dit hier, ok. Mais maintenant, si c'est une femme, comme elle ne peut pas témoigner, vous avez dit, est-ce que ça marche pour elle ou pas?
Vous mêlez deux sujets.
Ah.
Quand il s'agit de jurer de ne pas manger chazir ou de oui manger oui. chazir, cette voie n'est pas valable parce qu'au Har Sinaï, on a déjà juré qu'on ne mangera pas chazir. Donc, jurez
mais les
maintenant
femmes aussi?
Doucement. Ah oui, les femmes ont juré.
Ah.
Toi, vous n'avez pas vu votre femme au Har Sinaï? Quoi? Vous n'avez pas
mais
vu
si, je l'ai vu, mais je ne me rappelais pas.
Ah voilà, heureusement que je suis là pour vous rappeler. Alors, évidemment, votre femme et notre maman et votre grand-mère et votre arrière-grand-mère, tout le monde était au Har Sinaï. Donc, on a juré. Donc, si un homme, il jure que je ne mange pas chazir, cette chevoie n'a pas de force. Parce que tu as déjà juré une fois. On ne peut pas jurer une deuxième fois sur la même chose. Maintenant, si un homme, il jure... Fermez la maison. Voilà. Si maintenant, un homme, il jure, je veux oui manger chazir, aussi, ça n'a aucune force. Tu as juré, tu ne vas pas manger. Donc, si tu jures que tu vas oui manger, ça n'a aucune valeur. Il y a Khayav Malkout parce qu'il fait un choix de chav, parce qu'un choix qui ne sert à rien. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas ça un autre sujet. En tout cas, la choix ne l'engage pas. Maintenant, nous avons dit que toi, un homme qui a juré qu'il ne mange pas de vela ou de treifa. Je jure que je ne mange pas de vela ou de treifa. Et après, il a mangé. Et on dit, il est Khayav le korban, tu as transgressé ta choix. La Gemara lui a demandé, je ne comprends pas, mais ça n'existe pas. Tu jures que tu ne vas pas manger chazir et tu manges. Comment tu es chayav sur la chevoie, étant donné que tu as juré au Sinaï? Il est chayav pour avoir mangé chazir, mais c'est un autre sujet. Mais la Mishnah nous dit que la chayav est titre de chevoie. Pour ça, la Gemara a répondu deux tirotim. Un tirot de Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et un tirot de Rech Lakish. Rav Shmuel et Rabbi Yochanan, ils ont interprété cette Mishnah qu'il a fait une double chevoie. Il n'a pas seulement juré de ne pas manger chazir. Ça aurait été rien. Mais il a juré de ne pas manger kasher et de ne pas manger chazir. Il a juré sur les deux. Donc, étant donné que la chevoie est valable sur le kasher, je jure, aujourd'hui, je ne mange rien qui est kasher. Du pain et les kasher, je ne mange pas de pain. En plus, je ne mange pas de chazir non plus. Donc, étant donné que le serment est valable pour le pain, automatiquement, il est valable pour le chazir aussi. Donc, la Mishnah nous dit qu'il a juré de ne pas manger chazir. Il a mangé, il réav korban chevoie. Ça, c'est dans le cas où il a juré de ne pas manger du pain, pas de chazir. Très bien. Ça, c'est la rabbi Shmuel Rabbi Yochanan. Rech Lakish, il est dit autrement. Lui, il ne tient pas que chevoie ta kolel, qu'elle est valable. Selon lui, même si tu jures sur le pain, sur le chazir, sur la partie chazir, la chevoie n'est pas valable. Alors, comment il interprète la Mishnah? Il interprète la Mishnah qu'il a juré qu'il ne va pas manger un demi-shiour. Je jure que je ne vais pas manger un demi-keza yitrazir. Étant donné que la Torah elle a permis de manger un demi-keza yitrazir. Donc, si lui, il dit, je jure de ne pas manger un demi-keza yitrazir, ça ne va pas contre la chevoie qu'il a juré à Har Sinaï. Har Sinaï, nous avons juré de ne pas manger un keza yitrazir, mais on n'a jamais juré de ne pas manger un demi, parce que la Torah n'a pas interdit. Là-bas, on a juré d'accomplir la Torah. Pas accomplir la Torah. Plus que ça, on n'a pas juré. Donc, un demi-kézaït, la Torah n'a pas interdit. Donc, c'est pour ça, son serment était valable. Donc, s'il a mangé maintenant, et s'il a mangé maintenant, donc il est khayaf. Ça, c'est le type rouge de Rech Lakish.
Est-ce que ça veut dire que c'est une chevoie sur une khumra?
C'est une chevoie sur un issour de Rabbanan, oui. Alors maintenant, la Gemara aborde. Étant donné que les Chachamim ont oui interdit de manger un demi-kezaït chazir, donc Nimtza qu'il a transgressé un issour de Rabbanan. Alors, est-ce qu'une chevoie sur un issour de Rabbanan est valable ou pas? La Gemara veut dire peut-être parce que tout ce qui est assommé de la banane, il est un peu assommé de la Torah, parce qu'il est marqué dans la Torah l'autre assour. On n'a pas le droit de transgresser les paroles que Chachamim disent. Alors donc, il a vite touché un peu les deux raïtas. Donc, est-ce que nous allons dire, parce que Mi'ikaradin Minatora s'est permis, donc son serment est valable, hein? Son considérés les kish, ou est-ce que nous allons dire non? Parce que Chachamim ont interdit, donc c'est un peu assour Minatora, peut-être le choix n'est pas valable. Et sur ça, la Gemara, il a apporté une preuve au début de Shua Taïdout. Qu'est-ce que nous avons vu dans Shua Taïdout? On a vu qu'un homme qui jure qu'il ne connaît pas de témoignage, et après il avoue qu'il a menti, il est obligé de faire un korban. Quel est maintenant le din si on demande à une femme de faire un témoignage et elle jure qu'elle n'a rien vu et après elle avoue qu'elle a menti, qu'en vérité elle a vu, alors elle n'apporte pas de korban chevoie. Pourquoi? Parce qu'une femme, si au début elle n'avait pas menti, si au début elle avait dit « oui, oui, je connais le témoignage et je suis prêt à témoigner », eh bien le témoignage n'est pas valable. Une femme, deux femmes qui témoignent que l'autre doit payer d'argent, ce témoignage n'est pas accepté au Bédin. Donc, le refus de cette femme de témoigner ne provoque pas de mal. Donc, si elle a juré qu'elle ne connaît rien, elle n'apporte pas de korban shvuat et doute. Ça, c'est la Mishnah. Et la Mishnah nous cite plusieurs cas de disqualification d'un témoin. Par exemple, une femme, elle est disqualifiée de la Torah. Ou par exemple, un rachat, un homme qui mange chazir, ou un homme qui est mahal shabbat, il est disqualifié, ou un voleur, il est disqualifié de témoigner. Donc un voleur qui dit « je jure que je ne connais rien de ce témoignage », un homme qui est connu comme voleur. Donc s'il témoigne, on n'accepte pas. Maintenant, il est invité au Bédin. Est-ce que vous connaissez? Je jure que je ne connais pas. Après, il avoue, en vérité, je connaissais, oui. Est-ce qu'il apporte un korban shvuat et doute? Non, il n'apporte pas. Étant donné que même s'il avait parlé, son témoignage n'avait pas été accepté. Donc le voleur, il échappe à souhaiter. Maintenant, il est marqué dans la Mishnah et tous ceux qui ne sont pas capables de témoigner. La Mishnah énumère plusieurs cas, les cas qui sont marqués dans la Torah qu'on est disqualifié de témoigner. Et la Mishnah ajoute et tous ceux qui ne sont pas capables de témoigner. Sur ça, la Gemara, il avait demandé la question, mais qu'est-ce que la Mishnah cache? Qu'est-ce que la Mishnah veut dire tous ceux qui ne sont pas capables? Les Rechaïm, ou la proche famille qui ne peut pas témoigner, ou les femmes, c'est ça énuméré dans la Mishnah. Alors, il y a encore un cas que la Mishnah veut faire allusion. C'est quoi ce cas? Sur ça, la Gemara, elle a proposé deux explications. Une explication qui s'agit du roi. Le roi, Minatora Be'etzim, il aurait pu témoigner. Un roi qui témoigne, son témoignage est valable. Mais Chachamim, ils ont dit qu'il n'a pas le droit de témoigner. On ne laisse pas témoigner. Parce que pour témoigner, il faut lui dire « levez-vous » et on n'a pas le droit de dire au roi « levez-vous ». C'est manque de kavod. Donc, le Maasé, le roi n'est jamais invité. Et comme le roi n'est jamais invité, donc même s'il jure qu'il ne connaît rien, c'est faux, il a manqué. La deuxième explication, c'est Mesachek Bekuvia. Quelqu'un qui joue Bekuvia. Il joue des dés. Donc, il gagne sa vie en jouant des dés. Donc, lui, il est pas soul, mais de Rabbanan. Minatora, il est caché les doutes, mais de Rabbanan, il est pas soul. Alors, on nous dit que parce que Minatora, on dit parce que mi de Rabbanan, il est pas soul de témoigner. Donc, ça s'appelle, il est incapable de témoigner. Alors, la Gemara demande, mais Minatora, il est capable de témoigner. Alors, donc, pourquoi tu dis pas Minatora, il est chayaf? Minatora, il aurait pu témoigner, donc il est kasher le Eidout. Donc s'il a juré que je ne sais pas témoigner, il aurait dû être chayaf. Alors qu'est-ce que tu réponds? Oui, mais Midrabanan, il n'est pas capable. Donc parce que Minatora, il n'est pas capable, ça s'appelle pas un shvuat Eidout. Alors dans ce cas-là, aussi, ceux qui jurent qu'il ne va pas manger deux mekeza et trazir, la shvua, il n'aurait pas dû être là. Hein? Donc ça, la Gemara fait une différence. Que vis-à-vis des shvuat Eidout, ça dépend de la pratique. Et la pratique, ce que pratiquement est apte à témoigner au Bédin, celui-là, s'il jure, faux, il a chavchouaté doute. Si pratiquement, on ne le laisse pas, alors il n'y a pas chouaté doute. Ce n'est pas parce que le din de Rabbanan il a une force de din de la Torah, parce que l'autre sourde, écouter les Chachamim, ça devient din Torah. Mérité le Draman ne devient pas din Torah, mais c'est un comportement pratique d'Obedin. Obedin, on ne laisse pas parler ce qui est pas sous le Midrabanan. Et donc, comme on ne laisse pas parler dans la pratique, on ne laisse pas parler, donc il n'a pas causé de tort. Donc, comme il n'a pas causé de tort dans la pratique, donc il échappe à la Shvat Edut. Mais il ne s'agit pas dans la pratique, c'est dans la théorie. Est-ce que la Torah elle a interdit de méchir ou la Torah n'a pas interdit? Du moins que la Torah n'a pas interdit, même si les Chachamim ont interdit, s'il a juré que je ne mangerai pas une demi Kazaït Khazir, le choix est valable. Maintenant, on va regarder un point. La Gemara nous a dit que ceux qui jouent au dé, il est sous le Midrabanan. Et Minatora, il est cachère. Minatora, il est cachère. Mais Chacha, ils ont rendu pas soul. Lisons un peu Rashi ici. Vous avez Rashi, l'imout et Mesachek de Kouvia, au milieu du Hamoud, Rashi. L'imout et Mesachek de Kouvia, c'est exclu ceux qui jouent avec du dé. Rashi dit, Be'eravon, avec un gage. C'est-à-dire quoi avec un gage? On met un morceau de Eravon, ça veut dire je te donne un gage et on joue et si je perds, eh ben tu me donnes ton Eravon et si moi je perds, chacun donne un objet à l'autre et comme ça cet objet est à toi si je perds. D'accord. D'Arabe Gazlen Midrabanan, c'est un Gazlen Midrabanan ou pas sous l'aide. Mais Midoraita Merzechazi, Minatora, il peut lui témoigner. De loi avec Gazlan de Uraïta, ce n'est pas considéré comme un Gazlan Minatora. Et là, chez Gazal, Miyado, que mot va yixol et techanit, Miyad Hamitzri, kach mefourash, me baba kama. C'est quoi le Gazlan de la Torah? C'est un Gazlan qui vole, qui arrache un objet de l'autre. Alors, c'est clair, net et précis qu'il a volé. Il va dans la rue, il arrache un objet. Ça, c'est le Gazlan Minatora. Mais ici, l'autre lui a donné un objet dans la main. On a joué. On a quel ton cheval ou mon cheval, quel cheval court plus vite. Tu m'as donné de ton plein gré 100 euros dans ma poche. Et tu as dit que si ton cheval perd, je garde les 100 euros.
Mais c'est pas honnête. Et s'il triche?
Ça veut dire quoi?
S'il triche, il peut. Parce que des fois, au dé, je ne sais pas, il peut tricher ou des fois, je sais pas, peut-être il peut truquer les dés, j'en sais rien quoi. Si il triche, il est considéré quoi, Gazlan ou pas?
Quoi, si en vérité c'est l'autre qui a gagné et lui il fait semblant que lui il a gagné,
je sais pas si il triche quoi.
Mais si vous savez pas, comment moi je sais? Je ne peux répondre que sur une question. Expliquez votre question.
Il triche. Les tricheurs, ça arrive, ceux qui jouent aux cartes ou ceux qui jouent aux dés.
Apprenez-moi comment on triche.
Je ne sais pas.
Heureux que vous êtes, que vous ne savez pas comment on triche, c'est bien. Alors, je vais vous apprendre comment on triche. Et en vérité, c'est le cheval de l'autre qui était plus vite que mon cheval. Et moi, je truque la photo et je lui montre que mon cheval, il était plus vite que le vôtre. Alors, j'encaisse les 100 euros. Alors, vous demandez, est-ce que celui-là, il n'a pas sous le Minatora ou il n'a pas sous le Midrabanan? On peut dire quel Mesachek Bekouvia, il n'a pas sur le Kemidrabanan, un joueur honnête. Si mon cheval gagne, j'encaisse. Si ton cheval gagne, je te donne à toi. Mais si, en vérité, c'est ton cheval qui l'a gagné et j'ai menti et j'ai dit mon cheval il a gagné, j'encaisse, peut-être c'est assourd. Ça, c'est du vol, du pur vol. Peut-être c'est assourd Minatora. Alors, vous touchez en vérité la question que moi je vais toucher. Je m'explique. Qu'est-ce que j'ai voulu demander? Le Rashi a l'air de dire que Gazlan, c'est seulement ce qui arrache un objet de l'autre. Mais ici, je n'ai pas arraché l'objet de l'autre. L'autre m'a donné de plein gré. Mais le Rashi, il y a ici un truc qui tourne par an. Il y a une Gemara dans Bava Metzia que Kofer de Picadon a soulé d'out. Un homme qui est Kofer de Picadon, si Rouven donne un Picadon à l'autre, je te donne à garder 100 euros. Voilà ton 100 euros dans l'enveloppe et tu me la gardes. Et après, je viens chez l'autre, je dis, voilà, je vous ai donné 100 euros, vous me donnez rendez-vous. L'autre dit, non, vous ne m'avez rien donné. Comment j'ai rien donné? Bien sûr, je vous ai donné. Non, vous ne m'avez rien donné. Après, il jure, vous ne m'avez rien donné. Il est coffert. Ou même s'il ne jure pas. Même s'il ne jure pas, il dit, vous ne m'avez rien donné. Après, il arrive deux témoins et dit ce qu'on avait donné. Donc, c'est un voleur. Ce n'est pas un gazlan, mais c'est un ganav. Kofer bepikadon, pas sous les édoutes, parce qu'il a volé les 100 euros. Mais il n'a pas arraché les 100 euros de l'autre. C'est l'autre qui lui a donné, mais je te donne un picadon. Si ça avait été un prêt, ça aurait été autrement. Imaginons, je prête à quelqu'un 100 euros. Après, je dis, monsieur, je vous ai prêté 100 euros, rendez-moi 100 euros. L'autre dit, c'est faux, vous ne m'avez pas prêté. Il arrive deux témoins qui disent que je lui ai prêté. Eh bien, lui, il n'est pas passoul. Pourquoi? Donc, ça, la Gemara nous dit, parce que c'est possible, je prêtais 100 euros. Il les a dépensés. Après, il faut les rembourser, mais il n'a pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait un homme qu'on lui dit, monsieur, je vous ai prêté 100 euros, rendez-moi, et l'autre n'a pas les 100 euros? Il veut rembourser. C'est possible qu'il veut rembourser. J'ai l'intention de rembourser, mais je n'ai pas d'argent. Mais si je lui dis, c'est vrai, je vous dois les 100 euros, mais je n'ai pas d'argent, il a peur que l'autre va le saouler. Ah, tu as avoué? Eh bien, tu payes, tu as de l'argent, tu payes tous les jours. Il va lui téléphoner 15 fois, tu payes moi. Ouh là là, c'est un saouleur. Alors, pour pas qu'on me saoule, dis non, je ne vous dois rien. Laissez-moi tranquille, je ne vous dois rien. C'est une façon de se débarrasser que l'autre ne saoule pas. La Gemara nous dit, donc, à Koufer ben Milvé, il n'est pas saoulé, il doute. Ce n'est pas un voleur, c'est un homme qui veut gagner du temps. Il a l'intention de rembourser à la fin, mais maintenant, il n'a pas d'argent, donc il ment. C'est vrai qu'il ment, mais il ne veut pas voler. Ça, c'est Koufer ben Milvé. Mais Koufer ben Picadon, quand je te donne un objet pour garder, tu n'as pas le droit de toucher. Si tu touches, tu es un voleur. Donc l'objet, il est là. Si maintenant je réclame, l'autre dit non, vous m'avez rien donné. Comment j'ai rien donné? Et peut-être il a dépensé l'argent, il ne trouve pas l'argent pour rembourser. Mais comment il a touché? Et s'il touche, il a déjà volé. Donc il est déjà en rachat, il n'est déjà pas sous les doutes. C'est pour ça qu'un coferbe picadon, il n'est pas saoul. Seulement la Gemara pose la question, mais il peut y avoir un cas de coffer bepicadon que ce n'est pas un voleur. Peut-être il a perdu l'objet. On lui a donné les 100 euros, il les a perdus, ou il les a égarés, il ne sait plus où il les a mis. Et s'il dit la vérité, monsieur, vous m'avez donné, mais j'ai oublié, je ne sais plus où, j'ai égaré, et alors l'autre, il va le saouler, rendez-moi mes 100 euros, et il n'a pas d'argent pour rendre, donc il veut gagner du temps. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous ne m'avez rien donné pour se débarrasser. Donc même le chômeur picadon, peut-être, ce n'est pas quelqu'un qui veut voler, veut rembourser. Alors sur ça, la Gemara répond, et le chômeur picadon qui n'est pas saoulé, et d'autres, c'est dans les cas où les témoins lisent, et au moment où il a dit qu'il n'a rien reçu, ce moment-là, l'argent était chez lui, on l'a vu chez lui, et il savait très bien où l'argent se trouve. Ses 100 euros étaient sur sa table, il le savait. Nous étions témoins qu'il avait l'argent chez lui, donc il ne les a pas perdus. Donc pourquoi il dit que tu m'as rien donné? Donc il vole, donc il n'est pas sous les doutes. Donc l'Ichora, ce que Rashi dit ici, que le Mesachek Bekuvia, il est le Mesachek Bekuvia, il est kasher min la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah n'a interdit le vol de la Torah rend pas saoul seulement s'il arrache l'objet de l'autre, mais pas que l'autre me donne dans la main. Il existe aussi que l'autre m'a donné dans la main un picadon, et on nie ce picadon, et bien aussi on est voleur, et on n'est pas saoul. On n'est aussi pas saoul. Alors, l'Ichora, la raison pourquoi Mesachek Bekuvia n'est pas voleur, l'Ichora, ça ne suffit pas ce que Rashi dit, il faut ajouter un autre pshat. C'est parce que Minatora Behemet, l'objet m'appartient. Parce que l'autre, il a dit que si mon cheval est le plus vite, il me le donne. Donc Minatora, ça m'appartient, Mimidera Banane, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est la Souga de Sanhedrin qu'il faut analyser bien d'Asmachta Kanya, Asmachta Lokanya. Ou peut-être les gens pensent qu'on est oui, qu'on est. Les gens, ils pensent que c'est oui, honnête. Ils ne savent pas que c'est considéré vraiment comme du vol. Peut-être que l'Okanye Mitzadadine, je n'ai pas le droit de prendre cet argent. Mais les gens, ils pensent qu'on a eu le droit de prendre. Et donc, c'est seulement Gezel Midrabanan. En tout cas, et ce que Rashi dit, le seul Gezel, c'est d'arracher. C'est pas, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, ça, il faut analyser qui a caché les Edout ou pas. C'est la plus grande importance, c'est vis-à-vis d'un guet. Si un témoin, il est témoin d'un guet. Si un homme, on lui a déposé d'argent et lui, il a utilisé l'argent de l'autre, ça peut arriver à ce moment-là, monsieur tout le monde. On me dépose d'argent et on le prend. Ah, si c'est Béchogeg, on s'est mêlé, on a fait Béchogeg, Béchogeg, on n'est pas passoulé, tout. Mais si on a fait Béméizit, ou si on emprunte, on ne rembourse pas Béméizit, alors ça, c'est pas, on n'est pas passoulé, tout. On a emprunté, on n'a pas remboursé, pour ça, on n'est pas passoulé. Et si on ment et on dit non, vous ne m'avez pas prêté, mais peut-être on dit, peut-être je vais rembourser. Ça mange pas d'argent, ça ne rend pas saoul vis-à-vis du Bedin. Justement, ça ne rend pas saoul. Ça ne rend pas saoul. Mais prendre l'argent de l'autre sans permission, ce n'est pas pachout.
Mirela.
Oui.
Et celui, par exemple, qui n'a pas volé, mais qui ne rend pas tout de suite parce qu'il n'a pas d'argent, mais il a dans l'idée de rendre, d'accord, l'argent.
Il n'est pas saoul. Il n'est pas saoul. Il n'est pas passoulé.
D'accord, mais est-ce que l'autre, il ne prend pas le risque que quelqu'un lui fait Shemra et peut-être au fur et à mesure, on ne voudra plus qu'il soit témoin.
J'ai rien compris.
Il ne prend pas un risque.
Hein? Vous posez une kushia, vous dites une halakha, vous donnez une réponse, non, qu'est-ce que vous dites?
C'est kushia, c'est une question.
Ben, une sheila ou une kushia? Est-ce que non, vous avez une sheila. Différence entre un Sheila et un Kushia. Kushia, ça veut dire ce que vous dites. J'ai une question sur ce que vous dites. Une Sheila, c'est une question que vous-même demandez. Alors, vous faites une Kushia ou une Sheila?
Ah, Sheila.
Alors, quel est votre Sheila?
Celui qui ne rend pas tout de suite parce qu'il n'a pas d'argent. Et donc, c'est pas un ganav, on dit c'est gazlan. Il ne prend pas non, le risque pas que l'autre...
Gazlan. Non, c'est pas un gazlan. C'est pas un gazlan. Ce n'est pas un ganav, ce n'est pas un gazlan, c'est un mauvais payeur. Mais c'est mauvais un rachat.
Il
ne
prend pas le risque.
Quoi?
Il ne prend pas le risque qu'on lui fait un mauvais nom, Moshi Shemra, et de là, plus personne ne voudra qu'il témoigne.
Oui, il prend ce risque, oui.
D'accord, ok, c'est là, c'est tout.
Donc il est bête, vous voulez dire qu'il est bête, parce qu'il se fait lui-même, on ne va plus lui prêter.
Oui. Il prend le risque comme ça. C'est...
Oui, il prend le risque. Il est bête comme un clou. Il est bête comme un clou. Alors, on va continuer. Alors, où nous sommes? Quand on veut être témoin pour un guet, il faut être clean. On n'a pas le droit de voler. Alors, comment faire? Il faut faire teshuvah avant d'être témoin. Et si on a un doute si c'est du vol ou pas, si un homme il prend d'argent, il a un doute si c'est du vol, il n'est pas sûr que c'est du vol. Mais si le Bedin Agadol serait venu, il aurait dit c'est du vol, j'aurais remboursé. Si j'ai dit comme ça, je ne sais pas si c'est du vol ou pas, tu m'imagines que ce n'est pas du vol, mais si c'est du vol, je suis prêt à rembourser. Alors, s'il arrive ici, les Bedin Agadol, ils vont me dire que c'est du vol, je suis prêt à rembourser. Est-ce que ça s'appelle kasher l'aïdout? Peut-être. Dans ce cas-là, dans cela, c'est kasher, mais je ne sais pas. Au Kiddushin aussi, si les Kiddushin ne sont pas valables, s'il n'y a pas d'autres témoins. Si on dit pour un Kiddushin, on est meyached l'aïdim, que vous deux, vous êtes les témoins, un de ces deux, il n'est pas saoul, mais les Kiddushin ne sont pas valables. Je ne sais pas si de nos jours, il y en a certains qui ont la coutume de dire seulement vous êtes les deux témoins. Ça, c'est une bonne coutume. Peut-être une bonne coutume si ces deux sont vraiment cachers. Alors, étant donné que dans la Kahal, il y a des psoulim, et si on fait
ça. Ça peut sauver ça.
Les témoins. Quoi?
Ça peut sauver pour les Kiddushin.
Je ne comprends pas.
Ben, des fois, quand il y a des très très gros problèmes qui arrivent derrière un mariage, des fois, on peut trouver des...
Ah.
Qu'est-ce que je veux dire?
Ouais. En tout cas, ceux qui veulent faire des Kiddushin Kshirim, Normalement, les Juifs, ils veulent faire des Kiddushin Kshirim. Si on témoigne, si on dit pas vous deux, vous êtes les seuls kachers, on dit, bon, des témoins, mais tout le monde est témoin. Alors, si jamais un des deux qu'on a désigné sont Fasoul, mais il y en a des autres, qui sont peut-être proches, qu'ils sont kachers. Les Kiddushin sont quand même kachers. Mais il y a une chita qui craint que s'il y a des gens kachers et pas kachers, et les gens, ils pensent être témoins dans ce cas-là, parce qu'il y a des pas cachers, même les cachers, c'est pas valable. Mais c'est pour ça qu'il y a une chumra, certains disent, qu'on désigne seulement deux témoins. Mais cette désignation de deux témoins, ça peut être une bonne chose, oui, si ces deux sont vraiment cachers. Mais si un des deux n'est pas saoul, dans ce cas-là, valait mieux de ne pas désigner les témoins. Et on laisse tout le monde être témoin. Comme ça, il y en a sûrement deux cachers dans la salle. Et en principe, du moins qu'il y a deux sœurs dans la salle, en tout cas deux qui ont vu les Kiddushin, peut-être même de loin, peut-être ça aussi, c'est valable, la personne soit. En tout cas, je ne suis pas sûr. J'ai des gens qui sont bizarres. Je ne suis pas sûr que c'est bien de désigner les témoins. Mais en tout cas, des gens bizarres, maintenant, qui sont bizarres, bon. Alors, c'est très problématique. En tout cas, c'est encore plus la problématique qu'il faut pour les témoins des divorces, et Shemirachem. Shemirachem, que les témoins des divorces, ils ne sont pas du voleur. Ou est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est du vol? Chacun y pense, ce n'est pas du vol, c'est permis, ça c'est permis. Et des fois, c'est vrai qu'il y a les mots de route.
Mais de ces manières, aujourd'hui, les témoins dans les divorces, c'est les autorités qui les désignent.
Et les autorités sont cachères.
C'est des, par exemple, au consistoire, c'est des témoins du consistoire, oui, des rabbins.
Oui. En tout cas, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il y a dans la Gemara le ganav de Nissan et de Tishri, c'est pas un ganav, il reste cachère les édoutes. Comme ça dit la Gemara, ceux qui volent en Nissan et en Tishri, c'est pas un voleur, on est cachère les édoutes, donc on est sauvé. Donc, si vous voulez voler d'argent, il faut surtout voler en Nissan et en Tishri, comme ça on reste cachère. Comme ça dit la Gemara, comme ça dit le Shulchan Aruch.
C'est quoi ça?
Ah, j'ai attendu cette question. C'est pas possible, cette question. Non, mais parce que Tishri Yom Kippour, quand on vole le jour de Kippour, c'est pas du vol, tu vas comprendre. Et Nissan se Pessah, on mange la matzah, c'est bon, c'est beau, on n'est pas voleur, non? Non, le pshat, il est comme ça, la Gemara nous dit. On parle des métayers qui travaillent dans le champ de leur patron et il a un pourcentage dans les bénéfices. Rouven, il est patron de son berger, Shimon travaille toute l'année et après, il arrive, Nissan et Tishri, il arrive le moment de la récolte. La récolte de blé ou la récolte des fruits. Alors, on partage la moitié pour le patron et la moitié pour moi. Et maintenant, pendant qu'il partage, il a pris une pomme de plus. Ceux qui partagent, il était seul. Le patron lui dit, bon, je vous fais confiance, partagez les fruits. Alors, je mets ici 200 tonnes pour mon patron et j'ai mis 200 pommes pour moi. Et comme j'ai travaillé, bon, j'ai mangé une pomme. Moi, j'ai une, deux pommes, je mangeais pour moi. Donc, j'aurais dû le calculer. Ah, j'ai pris deux pommes pour que je mette deux pommes sur le compte de Baal HaBayit. Mais ça, je n'ai pas fait. Alors, c'est une petite chose au moment de la moisson, une petite chose. Un homme que ben est-il a le droit de manger parce que j'aurais pu manger dès mes pommes. Mais maintenant, j'ai le prix de ce que je n'ai pas partagé et je n'ai pas partagé juste et j'ai pris une pomme de trop. D'avoir katane au moment du partage, ça, c'est pour rendre papa sous les doutes. Pourquoi ça ne rend papa sous les doutes? Parce que les gens considèrent que ça, ce n'est pas du vol. Et ça, c'est peut-être, ça, c'est le pshat que Ganavin dit. Mais c'est une petite chose, et c'est seulement si tu participes, tu as une part. Mais si c'est un ouvrier qui est payé par un salaire, et il vole, eh bien, ça ne marche pas. Ça, c'est
la question. Le stylo dans l'entreprise.
Voilà, le stylo, les papiers, où je vais faire une photocopie, téléphone, je vais faire une photocopie moi-même. Les gens, ils considèrent s'il y a tolérance, les balamites sur moi, il est d'accord. Alors, si tu fais une photocopie, tu fais deux photocopies, peut-être on va dire que le balamite, il y a une tolérance. Mais ceux qui font 300 photocopies parce qu'il va inviter tous les gens pour la bar mitzvah de son fils et il va faire les invitations avec la photocopieuse du patron quand le patron, il n'est pas là. Il est là-bas pendant 20 minutes au bureau en train de faire toutes ses invitations. il prend 300 et encore 200 enveloppes, il le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait? C'est pas
possible. Et vous oubliez les timbres aussi. Parce qu'il y a la machine pour faire les timbres automatiques.
Oui, le balabait, il est d'accord. Alors, si le balabait, il est d'accord, pourquoi tu le fais quand le balabait n'est pas là? Pourquoi tu as attendu que lui, il est parti?
Et il faut lui demander.
Il y en a un qui n'a pas éteint. Attendez. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu le fais quand le balabait, il n'est pas là? Tu n'as qu'à le faire devant lui. Ah, parce que tu as peur qu'il va jeter un coup d'œil. C'est quoi ça, monsieur? Et le balabait, il se gêne de dire chaque fois, non, ne faites pas ça, vous abusez. Le balabait, c'est pour dire que le balabait n'est pas d'accord, mais bon, il ne veut pas se fâcher avec son ouvrier. Moi, une fois, j'étais dans l'usine de mon père, là-bas, Shalom, et j'ai vu, il avait un tablier de femmes. Alors, à 6 heures, c'était terminé, et je voyais des femmes, et chacune, elle a pris un tablier, elle a mis dans son manteau, elle est partie. À chacune, j'ai vu une, deux. Ah, j'ai dit à mon père, tu sais, papa, j'ai vu, c'est là, et on dirait qu'elle a volé, quoi. Il a le droit de prendre. Il dit, non, il n'a pas le droit de prendre. Il dit, mais je l'ai vu, elle a pris sur le manteau, elle est partie. Il dit, je sais. J'ai dit, alors pourquoi tu dis rien? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle me dit, mais tu n'as rien à renvoyer, prendre un autre. Il dit, l'autre sera la même. C'est comme ça, les ouvrières, elles ont décidé que c'est permis de prendre. Et tu prends un autre, elle prendra aussi. Alors, on ferme un œil. En vérité, il n'a jamais permis. Les rois, c'est femmes de rois. Elles ne sont pas saoulées, d'autres les rois. Elles ont volé. Et le balabaï, il ne dit rien. Il ne dit rien parce qu'il ne veut pas se fâcher. Parce qu'il a besoin des ouvriers. Alors, tu vas dire, alors, donc, vous ne voulez pas fâcher. Donc, vous êtes d'accord. Donc, ce n'est pas du vol.
Mais alors, si c'est qu'elle vole, pourquoi qu'il ne l'autorise pas? Il a dit, voilà, vous avez droit, par exemple, à un par mois ou quelque chose. Il
donne, sinon, elle va prendre plus.
Voilà, s'il permet une, elle va prendre deux. Une, elle vole parce qu'il faut, c'est le kiff de voler. Si tu permets un, elle va prendre deux. Comme ça, un par kiff et un par vol. Un par permission, un sans permission.
Donc, mais pour eux, ce n'est même pas du vol.
Qu'est-ce que tu dis?
Pour eux, ce n'est pas du vol.
Pour eux, ce n'est pas du vol. Pourquoi ce n'est pas
du vol? Toi qui vole pour eux.
C'est le balabait qui vole, ouais. Quand on est un syndicalisé, alors c'est le patron qui vole et ça y est, tout est moutard. Oui, c'est pas la gaine dans la tête qu'on a mis dans la tête des gens, c'est un problème. Si la tête, il est à Verlan, si le balabait, c'est l'ouvrier, l'ouvrier, c'est le balabait. Ebet ki imloch, l'esclave qui prend la place du patron. Alors tout est inversé, on ne sait plus qui est le voleur. L'État, c'est nous, c'est nous. J'ai le droit de me mettre sur le bon point et empêcher 50 000 personnes d'aller au boulot parce que moi, j'ai eu une augmentation de 50 euros par mois. Donc, j'empêche. Donc, pendant 3 mois, on fait la grève à Paris. On empêche, on fait couler des entreprises entières parce que monsieur, il veut avoir plus de retraite. C'est un problème. Des fois, c'est bien justifié des manifs, mais des manifs quand l'autre, il ne peut pas travailler. Bon, maintenant, est-ce qu'on n'est pas sous les doutes? En tout cas, on n'est plus pas sous les doutes aujourd'hui parce que tout le monde se permet. C'est problématique. La Gemara nous dit Kovrei meitim beyontov rishon keshirim le'edut. Les enterreurs des morts le premier jour de Yontov sont kasher le'edut. Ça veut dire quoi? Amenan kakel et niftar. Donc, il faut l'enterrer. Alors, le premier jour de Yontov, il faut que le goy enterre. Les juifs n'ont pas le droit d'enterrer. On n'a pas le droit de creuser une tombe. On n'a pas le droit de fabriquer un cercueil. Alors, il y avait des juifs dans une ville en Babylonie qu'eux, ils ont tiré. Les juifs, ils ont tiré Yom Tov. Alors, ils sont venus devant le Rav. Alors, on les a mis au Kherem. Alors, on a demandé, vous n'avez pas le droit de faire ça, Yom Tov. Alors, on demande, est-ce qu'ils sont cachés les doutes? Alors, on nous dit qu'ils sont cachés les doutes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils font une mitzvah. Pour eux, ils ont fait une mitzvah. Il y a une mitzvah d'enterrer mort, on ne peut pas laisser, ce n'est pas du kavod. Alors, ils pensent qu'ils ont fait une mitzvah. La vira, à leurs yeux, c'est une mitzvah, donc ils savent faire les doutes. Alors, il y avait une histoire, donc on les a mis à Kherem. Et le prochain Yom Tov, encore une fois, il y avait mort, et encore une fois, ils ont enterré. Alors, il y avait un rav de la Gemara qui dit, maintenant, ils ne sont pas sous les doutes. Ça y est, on leur a expliqué, on les a mis au Kherem. Donc, ils savaient officiellement que le Bedin, il pense que c'est Assur Minatora. Donc maintenant, c'est de Rechaïm. Alors la Gemara nous dit non, ils sont quand même cachés les deux. Parce qu'ils continuent à croire qu'ils font une mitzvah. Ah, ils ont vu que le Bedin les a mis à Kherem, mais eux, ils interprètent ce Kherem, c'est pour Kapara. On a fait une mitzvah et une avéra. Regardez, c'est une mitzvah donc, tiré Yom Tov. C'est aussi une avéra, mais la mitzvah elle est plus forte. Mais comme il y a aussi une avéra, donc le Bedin, ils ont mis au Kherem pour nous faire une Kapara pour la avéra. Et dans le fond, c'est permis de faire. Et donc, ils ont fait le deuxième Yom Tov. Donc, de nouveau, ils pensent que c'est une mitzvah. De nouveau, ils pensent que c'est une mitzvah. Donc, si quelqu'un, il pense, ben, il fait une mitzvah, malgré que le rabbin dit, c'est une avéra, le rabbin lui crie, mais lui, il est convaincu que c'est une mitzvah. Et le rabbin, il s'est trompé. Le rabbin crie, bon, le rabbin, il est obligé de le dire pour pas que les gens, ils apprennent. Mais dans le fond, ben, c'est une mitzvah. Dans ce cas-là, ben, c'est benachanam qu'on n'est pas passé les doutes. Donc, ceux qui croient imprimer 300 trucs pour la bar mitzvah, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de prendre chez son patron. La mitzvah de faire un bar mitzvah, mais la mitzvah à faire avec les imprimantes du balavai. Alors, comment on fait? Comment on peut se débrouiller aujourd'hui dans la vie? Comment on peut se débrouiller? Comment on peut trouver des... Je ne sais pas. C'est quoi problématique? On devrait faire du temps en temps cadeau au balabai. Tu travailles chez balabai, du temps en temps, mettre 50 euros pour les vols que je vous ai fait peut-être. Là où tu travailles, il faut du temps en temps faire un don. Pas comme le balabai qui fait une prime. Il faut que de temps en temps, que les ouvriers font une prime au balabai. Monsieur balabai, ce mois-ci...
Des fois, les ouvriers, ils ne se font pas payer des heures. Ça va marcher alors. Il y a des ouvriers, le patron, il insiste, allez, téléphone, il lui envoie des mails à 11h du soir, etc. Et il ne le paye pas pour ça. Alors, c'est l'un dans l'autre, ça marcherait?
Tu ne peux pas faire justice tout seul, Serge.
Mais les gens, ils se font.
Tu lui fais cadeau les 50 euros, tu lui fais cadeau des mails. Quand il t'envoie un mail ou quand il t'appelle le dimanche ou pendant que tu es en congé qu'il a un problème, eh ben moi, je ne lui compte pas les heures.
Oui, tu dis que celui qui le balabai, il fait travailler plus. Alors lui, il se permet un peu. Alors, mais ça justifie par exemple qu'il vient un autre jour, il vient pas. Hein? Un ouvrier qui vient pas à l'heure. Maintenant, c'est m'tanit, je vais aller à la choule. À la place d'arriver à 9h au travail, il arrive à 10h. Il a amené accompagner son fils. Il perd ici une demi-heure, il perd ici une heure. Alors, on dit, je vais le rattraper. De toute façon, il y a des fois, je travaille le soir, il me téléphone, il m'embête. Donc, je fais des heures sup. Quand je fais des heures sup, je me permets de faire un peu des heures moins. Ça se comprend, parce qu'il n'y a pas du vol. Est-ce que ça me permet de prendre les 50 euros? Alors, imagine-toi, le balabait, il m'a embêté hier soir. À 10 heures le soir, il me téléphone, il faut que tu fais ça. Il m'a saoulé une heure. Maintenant, le lendemain, je vais au bureau et je prends 50 euros de la poche et je me paye 50 euros. Est-ce que ça, c'est permis?
Non, ça, c'est du vol. C'est du vol, ça. C'est quand même.
Et les rois, il faut aller chez le balabait, il faut lui dire, monsieur, vous savez, c'est une heure, vous m'avez pris une heure de plus. Oui, c'est vrai. Je voudrais que vous me payiez. Alors le balabait, il a deux possibilités. Soit il dit, d'accord, je vous paye, vous avez raison. Soit il dit, oh, lourdo. Il dit, non, sachez, monsieur Balabait, si vous me prenez en dehors du temps, je me fais payer. Ah non, alors je prends un autre ouvrier. Ah non, vous ne prenez pas un autre ouvrier. Vous m'avez engagé, je suis un CDI. Je me laisse pas vider, non. Et vous me demandez une heure de plus, je vous demande de payer. Ça, c'est le plus honnête. Tu veux l'argent, tu le réclames.
Mais pourquoi on cherche à équilibrer les choses, non?
Pourquoi on essaie, je n'ai pas compris.
Pourquoi on essaie d'équilibrer les choses?
Je ne comprends pas, parler en français.
Pourquoi on veut que le balabait, il paye pas, il paye juste. Pourquoi on veut compenser la perte du balabait par une heure de travail? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi là on veut équilibrer les choses? À chaque fois on dit bon, on fait comme si que le balabait, que l'ouvrier travaille une heure de plus, donc ça équilibre les photocopies qu'il a fait. Pourquoi on cherche... Si c'est pas mis d'accord avec le balabait, et même si on, il est une demi-heure en retard, c'est qu'il est en retard d'une demi-heure, il a volé le balai quand même.
Non, un homme qui arrive une demi-heure en retard, Mistam, il n'est pas passé les doutes, ça s'appelle pas un voleur.
Donc, ça s'appelle pas un voleur.
Et pourquoi c'est on pas, veut c'est pas très honnête. Alors, comme c'est pas très honnête de venir en retard, alors il faut bien faire quelques heures de...
Quand il vient en retard, le magasin il est fermé, il y a un manque de chiffre d'affaires. C'est un grand vol. Il s'occupe
mais,
pas.
Mais on n'est pas sous les doutes pour ça. Ça, c'est indirect. On n'est pas sous les doutes pour ça. C'est malhonnête. C'est vrai que le balabait, il a perdu d'argent. Et là, je peux remplacer que je travaille pour vous dimanche, je travaille pour vous des heures sup, et je vous ai ramené cet argent-là. Ça, c'est vis-à-vis de l'honnêteté. Maintenant, je parle vis-à-vis du vol. Un ouvrier qui met de l'argent dans la poche, dans la caisse du balabait, il vole d'argent. Mais il se dit, parce que je fais une heure de plus. Je fais toujours une heure de plus, alors je me sers tout seul.
Il peut dire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut.
Est-ce qu'il n'est pas sous les doutes ou pas? Est-ce qu'il est voleur ou pas?
Bien sûr.
Oui, là, c'est du vrai vol. C'est vraiment un vol.
On ne peut pas équilibrer chacun les choses. On ne peut pas dire, nous, bon, alors, sous-entendu qu'il ne m'a pas payé bien. Alors, si lui qui ne paye pas bien, il dit, moi, j'estime que je dois gagner un peu plus, j'ai le droit de prendre un blouson ou un papier. C'est un voleur. Tout le monde est voleur. Celui qui il n'est pas avec l'accord du contrat, c'est un voleur.
Oui, mais toi aussi, tu me embêtes le soir et tu me téléphones. Alors, mon contrat se termine à 18h. Maintenant, à 20h, tu me téléphones. Ce n'est pas dans mon contrat.
Oui, c'est pareil.
Bon, un vrai balabait qui est correct, quand il embête son ouvrier hors temps, il doit lui faire un prime. Ou il doit lui dire, voilà, ta femme a accouché, je te fais 3 jours de plus, que tu n'es pas obligé de venir, et voilà. Si je sais que c'est...
Si le balabait est très honnête, il n'a qu'à lui dire pendant l'heure d'appel, je te dois un billet, je dois quelque chose.
Maintenant, d'accord. Alors, on va continuer la Gemara.
Et si on lui demande et il ne veut pas?
Je n'ai pas entendu.
Si on fait comme vous dites, on fait le mieux, c'est de lui demander. Voilà, on dit, voilà, j'ai travaillé plus, mais il ne veut pas. Est-ce que ça justifie qu'on lui vole quelque chose? Bon, je ne pense pas, mais est-ce que ça peut justifier? Il ne veut pas. On lui demande gentiment, mais il ne veut pas.
Alors, à partir de maintenant, vous ne prenez plus le téléphone de Balabait après 18h. Mon contrat termine à 18h. À 19h, il me téléphone, je ne prends pas. Monsieur Balabait, je ne prends pas. Voilà, ça, c'est honnête, il n'y a rien de mal. Non, je ne prends pas le téléphone, ça ne fait pas partie de mon boulot. Ouais. Ah non, ça fait partie de ton boulot de m'aider à mon entreprise, mais pas en dehors du travail. Ah non, il faut être prêt même à 20h. Alors là, il ne faut que m'ajouter d'argent. Bon, ça dépend un petit peu qu'est-ce qu'il était marqué dans le contrat. Comment ça marche dans les contrats? Est-ce que c'est vraiment de 8h à 18h ou est-ce que c'est quand je te besoin, tu dois être à mes... Si on marche, c'est possible.
Ça dépend s'il a une paye fixe ou bien s'il a une partie variable. S'il a un fixe et une partie variable, là, il n'y a pas des heures, ni en plus ni en moins d'aucun des côtés. Quoi.
Les outils informatiques, ils ont tout changé, le portable, tout ça, tout a changé à cause de ça.
C'est-à-dire avec les SMS le soir, ils travaillent même le soir.
C'est-à-dire que s'il a un numéro personnel, il sait très bien qu'il va contacter la personne, c'est tout. Les outils aujourd'hui, ils ont changé la donne, quoi.
Et alors la paye aussi doit suivre avec.
Oui, mais ça, le patron, il ne veut pas.
À quoi il veut le beurre et l'argent du beurre?
Oui, mais le patron, il est beaucoup plus cool. Il permet beaucoup de choses à l'employé maintenant. C'est pas viens à telle heure, l'autre, il change les horaires, il prend un peu plus de vacances, il se débrouille, c'est un compromis en général.
Oui. Alors, on va continuer la Gemara. Alors, on attaque la Gemara. Vachol heiche, detani anush karet, lotani asur. La Gemara pose une kushia. Comment elle a commencé toute notre sugya? La sugya, elle a commencé, on recommence la Mishnah. Yom Kippourim. Assour ba achila ou bishtia. Yom Kippour, c'est assour de manger et de boire. ou berichitza de se laver, besicha minat sanatash mishmita. Sur ça, la Gemara a demandé, assour, comment tu dis Yom Kippour, c'est assour de manger, mais anush karet tout, c'est pas seulement c'est assour, on est rayav karet. Le Mishnah, elle a pris un langage beaucoup trop doux. Ça, c'est la kushia. Quand on te dit assour, c'est assour, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais anush karet, c'est la fin du monde. La Mishnah leur dit Yom Kippourim, chayavim, et on est chayav. Ceux qui mangent, mais la Mishnah ne nous dit pas chayav, on dit assour. Ça, c'était la kushia de la Gemara. Donc ça, la Gemara, elle est dit dans une explication. Que la Mishnah dit assour, c'est le chatzi shiur. Le demi shiur, on n'est pas chayav, mais c'est assour. Alors la Gemara pose la question. Vechol heiched etani anush karet lotani assour. Est-ce que c'est vrai que chaque fois qu'on dit quelque chose, il est chayav karet, la Mishnah, la Braïta n'utilise pas l'expression assour, toujours il est marqué les mots chayav. Le mot assour ne peut pas correspondre à un chiouf karet. Matania, pourtant nous avons vu dans la Braïta. Af, picha amru assour bekulan. Même qu'on ait dit que tout est assour, les cinq choses. Achilashti arichitzanichad. Même qu'on ait tout est assour. Lo amru anush karet. Ela la ochel veshote vose melacha bilvat. Le chiouf karet. Yom Kippour, ce sera pour se manger, sur boire, pour ceux qui font des travaux. Mais tout est assour. Donc, il est lui marqué dans la Braïta que le mot assour pour manger. La Braïta nous dit, à Falpi, qu'on a dit assour bekulan. Le assour, ce se rapporte sur toutes les cinq choses. Le karet, il se rapporte sur manger. Donc, le manger aussi, c'est marqué les mots assour. Donc, pourquoi tu t'étonnes en haut? Alors, on dit, Achekamar, il faut lire la Braïta comme ça. Quand on dit le mot assour, le amrou elbe kechatsi shiur. Ça, c'est sur un demi-shiur, on a dit le mot assour. Aval ke shiur, mais si on mange ke shiur, il est anush karet. Aval pisha anush karet, et même qu'il y a dans la Mishnah un anush karet, et un anush karet, elle a ochel beshote vose melacha bilvat. Donc, le mot assour sur manger, ce sera pour mettre sur demi-shiur. Si tu veux, je t'explique. Le mot assour se rapporte sur le reste. Pas sur la achila vestia, ça se rapporte sur les autres choses. Sur ça, c'est marqué assour. Le Tanou Rabba, Rabbi Yosef, Bechar Sifri, de Beirav. Rabba, Rabbi Yosef, ils ont appris dans l'autre Sifri de Beirav. C'est quoi Sifri de Beirav? Le Rav, il a fait la collection des Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, ce sont tous les drachot sur Sefer Vayikra. Et ça s'appelle aussi Sifri de Beirav. La collection du livre Sifri, qui est la collection des drachot sur Sefer Vayikra. Maintenant, il y a Char Sifri de Beirav. Il y a encore un autre Sefer, une collection de Rav, qui s'assure sur Sefer Devarim. Donc, il y a la drachot sur Sefer Devarim. On l'appelle Charles Sifri de Berav. Alors, qu'est-ce qui était marqué dans ce Sefer? D'où on sait que Yom Kippour, il est interdit de se laver, de se vendre, avec des choses sur Tasha Mishmita. Almod Lomar, Shabbaton. C'est marqué dans Torah Shabbaton. Je vote. Tu dois arrêter. Alors, normalement, le mot Shabbaton existe chez Shabbat. Et Shabbat, Shabbatonier. Et toujours la dracha dans la Gemara, que dans Hilchot Shabbat, il y a 39 travaux. Ce sont qui assurent la Torah. Mais comme la Torah ne nous dit pas seulement Shabbat, elle dit Shabbat, Shabbaton, le mot Shabbaton veut dire Shvot, arrête-toi. Arrête-toi même des choses que la Torah n'a pas interdites. Ne te comporte pas pendant Shabbat comme pendant la semaine. Ça inclut les Takanot Chachamim. Les takanot, certains takanot chachamim, ils se trouvent cachés dans le mot Shabbaton, fait un jour de repos. Et même des choses que la Torah n'a pas interdit, comme pour toi, c'est un jour de repos. Maintenant, vis-à-vis de Kippour, c'est marqué aussi le mot Shabbaton, c'est marqué de initem et nafshotichem. Faites souffrir votre corps. Donc la vraie souffrance, on verra après dans la Gemara, la vraie souffrance, ça c'est le manger et le boire, la privation de manger et de boire. D'où on sait. Il s'agit des privations de trucs, sur ça il y a un souvenir après. C'est-à-dire, c'est jamais marqué dans le Torah me fourrage de ne pas manger Yom Kippour. Il est marqué Anu et Nafshotechem. Vous êtes obligé de faire souffrir votre âme. Et Et tout ce qui ne se fait pas souffrir, mais qui profite, lui, eh bien, il a chayav karet. Mais quelle souffrance? Eh bien, nous, on sait que la vraie souffrance que la Torah parle, c'est de privation de manger et de boire. Mais comme c'est marqué dans la Torah, shvot, repose-toi, ça veut dire inclure en vérité encore d'autres plaisirs, diminue encore d'autres plaisirs. Donc ça, ça inclut la rechitza, sikha, minat, sandal, malgré que ce n'est pas marqué me fourrage dans la Torah. Et après, il y a des remazim dans le chumash, et ça aussi, c'est assaut. Seulement, est-ce que c'est assaut minat Torah ou ce n'est pas assaut minat Torah? J'ai déjà dit, ça, c'est la fameuse machloket, rishonim. Est-ce que les autres choses lavées, Yom Kippour, marche avec des chaussures, est-ce que c'est un issur minato midrabanan? Sur ça, il y a machloket. La Gemara l'Ichora mâchma plutôt que c'est un demi de raïta. Shabbaton, on le déduit. Vous avez Rashi? Où est Rashi? On va lire Rashi Shabbaton. C'est quatre lignes avant que ça devienne large. La Rashi avant que devienne large. Shabbaton, vegabe inuiktif. C'est marqué à côté de inui. De la même façon que le mot Shabbaton qui est marqué chez Shabbat. Les Chachamim, ils ont fait un smach, ils ont fait un appui. Char melachot, des autres travaux, qui n'existaient pas au Mishkan. Qui ne sont pas des vrais travaux. Quand même, ils rentrent dans la formule globale de Shabbaton. Achinami Shabbaton de Gabe Inui. Comme ça, le Shabbat que Inui dictif Shabbaton ou lachem, vi initem, le rosif al Inui achila vestia kati. C'est venu pour ajouter. Le choa de Rashi mashma que le iso rechitza pendant Kippour, c'est pas minatora. Parce que Rashi le compare au Shabbaton qui est marqué vis-à-vis de quoi? De Shabbat, que c'est Einan Malacha Gemura. Donc, par exemple, où on a vu dans la Gemara Shabbat, le mot Shabbaton, on dit celui qui casse les noix et prend un Shabbat pour préparer les soudats de Motsei Shabbat. Ou Yom Kippour, il prépare un peu le manger, il coupe les salades, pas trina. Il coupe les salades, il prépare le manger de Motsei Yom Kippour pendant Kippour. La Gemara est d'orège de Shabbaton. En vérité, il n'y a aucune malacha de préparer le manger si je ne fais pas trina, si je ne vais pas moudre, si je ne vais pas tuire. Si je ne vais pas faire bourrer, il n'y a pas d'issour de préparer le salat Shabbat pour Motsi Shabbat. Mais ça ne se fait pas. On n'est pas Mechin. C'est un din de Rabbanan qui est un nismach de le mot Shabbaton. C'est un jour de repos. Donc, le Rashi compare le Shabbaton, ici aussi, le Shabbaton de Shabbat ou Shabbaton de Kippourim. Donc, le Rashi mâchma que c'est assour, que mi de Rabbanan, c'est ignoré.
Achana, ce n'est pas mi de Raita, alors. C'est ça que vous avez dit.
Achana, quel achana tu parles? Il y a un achana qui est minatora. Mais ce que nous, toi, tu appelles achana, il prépare, il fait le lit Shabbat pour Motsei Shabbat. Il range le table et les chaises Shabbat pour Motsei Shabbat. Ça, c'est qu'un din de Rabbanan. La Mishnah, dans Masechet Shabbat, Matsin et Amitot Me'erev Shabbat le Shabbat, Avolomi Shabbat le Motsei Shabbat. On fait le lit d'Erev Shabbat, va dire vendredi soir, si je veux dormir dedans. Pour Shabbat, velo mi Shabbat le motzi Shabbat, mais faire le lit Shabbat pour motzi Shabbat, ça on fait pas.
Et l'œuf qui se prépare dans la poule.
J'ai pas entendu.
L'œuf qui se prépare dans la poule.
Ah, ça c'est notre, c'est un truc, ça c'est pas l'homme qui fait, ça c'est une autre chose. Là-bas, on mange quelque chose un Shabbat qui est après Yom Tov. Et le Shabbat il est préparé, la nature elle a préparé Shabbat pour Yom Tov et veulent manger pendant Yom Tov. Ça c'est difficile à drabas, c'est assur minatora de manger. Et là-bas, on ne parle pas du tout. Le faire un geste de hachana, là-bas, c'est la nature qui fait la hachana. Là-bas, il s'agit que l'homme, il mange quelque chose qui était mouchan de Shabbat Ochol. C'est un autre guédo. Alors, bouffa, on va reprendre dans la Gemara.
Et tashmish, c'est assour ou c'est chayav karet?
Karet, vadaï qu'on n'est pas chayav karet. Il est dit clairement qu'on n'est pas chayav karet. On est chayav karet que c'est pour Ochel, Echoté et Ose Melacha.
Et pourtant, c'est pas considéré comme si c'était Nida. Nida, c'est Chayav Karet.
Non, c'est pas comme Nida. Ma piton Ramsès. C'est d'après une Shita, c'est Assur Mida Rabbanan, et d'après l'autre Shita, c'est Assur Mida Torah. Mais il n'est pas Chayav Karet, surtout. Alors.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chiour dans toutes ces choses-là que ce n'est pas Hayav Mina Torah?
C'est pas Hayav Mina Torah parce que la Torah n'a pas rendu Hayav.
Parce que c'est une Asmarta, il a dit Rashi.
Voilà.
Mais on pourrait. Non, on ne peut pas penser par rapport au chiourim. Parce que juste avant, ils ont dit.
Alors,
quand on dit Assour.
Non, non, tu verras après dans la Gemara. On verra après dans la Gemara. On verra après. Goufa, on a repris. Chatzi shiur. Rabbi Yochanan Amar Assour mina Torah. Rabbi Yochanan dit Assour mina Torah en demi-shiur. Esh Lakish Amar Mutar mina Torah. Alors, Rabbi Yochanan Amar Assour mina Torah, il lui dit Assour mina Torah. Kevan de Chazi l'itztaroufe. Issouri ou ka'achil. Parce qu'on voit qu'on peut additionner pour arriver à Issour. Donc, c'est une preuve que la matière c'est aussi un Issour. C'est-à-dire, c'est quoi la philosophie de Rabbi Yochanan? Si la Torah me dit, si tu manges une kezaï, tu es chayav, donc forcément, si tu manges une demi-kezaï, tu as fait quelque chose d'interdit. Étant donné, c'est-à-dire, le Chora, il veut dire, si on avait dit que manger une demi-kezaï, c'est permis, donc ce demi-kezaï était permis, donc le prochain demi aussi, c'est permis. Alors, c'est jamais interdit. Donc, du moment qu'un kezaït il est assour, je suis obligé de dire que le demi aussi, c'est assour. Ou on peut raisonner autrement. Rabbi Yochanan veut dire simplement, la Torah, elle doit interdire un demi kezaït, c'est logique, parce qu'il y a un khashash que tu vas manger encore un demi. De peur que tu vas manger encore un demi. Mais si on va dire la deuxième explication, de peur que tu vas manger encore un demi, quel est le dîne d'un homme qui va manger un demi kezaït 2 secondes avant la fin de Kippour? Ou pas Kippour, oui, 2 secondes avant la fin de Kippour, et on n'a pas le temps de manger qu'un demi-kezaït. Maintenant, si on mange un demi-kezaït, on ne peut plus manger un kezaït entier. Alors, on va dire que ça, Rabbi Yochanan est d'accord que c'est moutard. Ça m'a aussi, c'est assour, parce que c'est un principe. Étant donné que tu peux ajouter un deuxième moitié et tu seras faillable, c'est mis à perdre que la demi déjà ne plaît pas à la Torah. Comme ça, il faut dire le Chora. Alors, qui vont de chazil, il se trouve parce que c'est possible d'additionner. Il sourit qu'à Achille, donc il mange déjà depuis le début quelque chose à sourd. On peut demander le fils à Shlakish. Un homme qui a mangé Kezaït, à quel moment il a commencé la Avera? Tu manges Kezaït, t'as mangé Kezaït. La Avera, elle a commencé au début ou elle a commencé qu'avec la deuxième moitié? Tu as mangé un demi et plus encore un demi. Qu'est-ce que la Torah elle a interdit? La première moitié? Et la deuxième moitié, ou la Torah interdit que la deuxième moitié? La Torah elle a interdit la deuxième moitié, parce que la première moitié m'a permis. Seulement, pourquoi la première moitié sera permis et la deuxième moitié interdit? La première, parce que la première, je ne mangeais qu'un demi. Et la deuxième demi, c'est, je commence après que j'ai déjà mangé un demi. Donc la deuxième moitié, la Torah elle a interdit, la première moitié l'a permis. Ou non? Si tu as terminé de manger un kezaït, Resh Lakish, il est d'accord que ta avera a commencé au début. Si tu as mangé qu'un demi et tu es arrêté, tu n'as rien fait de mal. Mais si tu as fait manger un demi plus un demi et maintenant tu as transgressé, alors on dit que depuis le début, tu as transgressé. Donc Rabbi Yochanan dit, donc depuis le début, j'ai transgressé, donc même si je ne termine pas, j'ai déjà fait une avera. Resh Lakish dit, non, pour le moment, ce n'est pas une avera. Alors, Shlakish Amar Mutar Mina Torah. Rabbi Shlakish dit, c'est permis selon la Torah. Achila Marachmana Velek. La Torah lui dit, ne mange pas, mais je n'ai pas mangé. Un demi-kezaï, ça ne s'appelle pas manger. Eisvei Rabbi Yochanan Resh Lakish. Alors Rabbi Yochanan demande de coucher Resh Lakish. Eli Ela Kol Shieshno Beonesh Yeshno Beazara. À première vue, j'aurais pu m'imaginer que les interdictions de la Torah. On parle du chélef, de manger la graisse. Il est marqué dans la parcha. Quelle parcha il est marqué que ça sort de manger la graisse? Dans quelle parcha il est marqué qu'il a sort de manger la graisse? Voilà, l'imout de Torah, il sourit déjà. Il a déjà capté. Hein? Il a déjà trouvé la réponse. Alors, quelle est la parcha où c'est marqué qu'il a sort de manger la graisse?
C'est Vayikra, non?
Donc, Vayikra. Voilà, c'est dans Parsha Tzav, oui. Alors, c'est cette semaine-là, et bon, on ne peut pas aller à la choule, il faut l'étudier à la maison. Alors, les Chélev, il est marqué dans cette semaine. Alors, maintenant, Chélev, c'est marqué, on est Chayav Karet. Si on mange Chélev, on est Chayav Karet. Alors, la Braïte dit comme ça. Il y a la Kol Shiesh Nobo Onesh, Shiesh Nobo Zara. J'aurais pu m'imaginer, Kol Shiesh Nobo Onesh, là où il y a le Onesh de Karet, Yesh Nobo Azara, là, il y a une interdiction. Mais Kvi, un homme qui mange la graisse d'un Kvi. Kvi, c'est un genre, je ne sais pas quoi, si c'est un buffle, un bison, un jacques, ou une autre sorte. C'est un animal, il y a un peu des symptômes d'un animal domestique, un peu les symptômes d'un animal sauvage. C'est comme une vache, elle est domestique, mais il y a des visons sauvages. Et normalement, les sauvages s'appellent Chaya et les behemoths, et ils sont domestiques. Mais ce n'est pas ça exactement la différence entre behemoth, Chaya, domestique et pas domestique. La vraie définition, ça dépend des cornes, là, comme on raconte. Les chayotes, ils ont des cornes, mais la vache aussi, elle a des cornes. Mais la corne de la vache, la corne du bélier, n'est pas la même corne comme les chayotes. C'est les chayotes, c'est une histoire compliquée dans la Gemara Houlin. Ils ont du bois qui se sépare, et en plus, ils ont des rondelles, et les rondelles sont emboîtées une dans l'autre avec des entailles. Ça, c'est le signe d'une chaya. Alors, je ne sais pas où on a par exemple en Chaya, les chamois, je pense, chamois c'est une Chaya, ou un cerf, c'est une Chaya. Il a du bois qui est différent du bois de la vache, la constitution, comment ils sont les rondelles. Et le Kvi, il a des demi-signes de Behima, des demi-signes de Chaya. La corne, comme on se dit, la corne, on peut avoir un doute, est-ce que c'est Behima Chaya? Alors, quel est le din donc dans un cuit? Alors, le cuit, le din, il est qu'on n'a pas le droit de manger la graisse. Peut-être c'est bien Behima, parce que la graisse n'est interdite seulement d'une Behima, mais la graisse des Chayot, la graisse d'un daim, d'un cerf, d'un chamois, cette graisse est permise de manger. C'est seulement Chélef, Shor, va Kesef, va Ez l'otochilu. Alors, le cuit, ce n'est pas très clair. Alors, il est marqué. Yachol, j'aurais pu croire. Kol Shiesh no Bazara, là où il y a Onesh Karet, là, il y a une interdiction à l'af. Mais cuit, un homme qui mange un demi-shiur, il mange un demi-kezaï de Chélef. Oil ve enoba Onesh, il n'y a pas le Onesh Karet. Yachol, j'aurais pu croire, enoba Azara, qu'il n'y a aucun avertissement, qu'il n'y a pas d'interdiction. Talmud l'omar kol chelef. Kol chelef l'otochelu. Le kol chelef inclut même une demi-mesure. Et ça inclut même la graisse du cuit. Et la graisse du cuit aussi, tu n'as pas le droit de manger. On n'est pas chayav karet, mais on n'a pas le droit de manger. Donc, qu'est-ce que la Gemara déduit de cette braïta? Donc, Rabbi Yochanan, il est clair que nous avons un pasuk. Kol chelef vient pour inclure un demi-kezaï. Donc, Rabbi Yochanan a gagné la bataille. Alors, c'est un coucha sur Resh Lakish. Alors, la Gemara nous dit, non, Midrabanan, le sens de la braïta, kol chelef, interdire en demi-mesure, en demi-kezaï, c'est ce que Midrabanan, c'est pas Issur Minatoire. C'est un smachta, en vérité, c'est un takanat chachamim, mais il y a beaucoup de takanat chachamim qu'on a cherché une allusion dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, une allusion dans la Torah? Il y a des bons comptes, il poulim dans les rishonim. Certains disent Asmachta, c'est simplement pour se rappeler, une allusion pour se rappeler. Mais la majorité des rishonim ne disent pas comme ça. Asmachta, c'est une allusion que la Torah pensait à ça. Mais la Torah n'a pas voulu faire une loi. Il y a des lois que la Torah elle a données, il y a des idées que la Torah a données, une idée qui va dans le sens que c'est, la Torah est intéressée qu'on se comporte comme ça sans qu'elle fasse une loi, mais les Chachamim, ils ont fait de ça une loi. Qui est moindre que la loi de la Torah, mais c'est donc l'idée de la Torah. Ça, c'est l'histoire d'Asmachta. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Quand l'État français dit il ne faut pas dépasser, je ne sais pas quoi, 0,5 d'alcool dans le sang quand on roule, si on roule avec plus que 0,5, alors c'est assour. Une loi. Et si c'est 0,4, ce n'est pas assour, c'est permis. Mais si tu vas demander à un policier, Est-ce que c'est Kedai que j'ai eu ma 0,4? Il va dire, ce n'est pas Kedai. Ce n'est pas bien. Ne buvez pas. Buvez pas des taux. Vous prenez la voiture, buvez rien. Ça, le mieux, c'est, on n'a pas fait de ça une loi. L'Avdil, ce n'est pas le même genre de loi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça dans la Torah. Ce n'est pas dans l'esprit de la Torah, ça se comporte comme ça. Il y a la loi stricte. Il n'y a rien à l'esprit de la Torah. Ce n'est pas dans l'esprit. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans l'esprit de la Torah, que Chacham, ils ont fait de ça une loi. Il y a un deuxième degré, une loi. Et il y a smach de la Torah. Donc, kol chelef mid rabbanan, vekra smach de ba'al mohu. Achen en mistabre. En vérité, c'est mistabre, comme on dit, que la Braïta n'a pas voulu dire kol chelef, une vraie dracha. Dis al kedater de Raïta. Parce qu'ici, tu as dit que quoi? Que c'est minatora, que bemet. Chati jour, ça sort minatora. Et le kol chelef, c'est une vraie dracha. Donc, tu es obligé de dire sur cuit aussi, c'est une vraie dracha. Que la graisse du cuit, c'est une vraie dracha kol chelef pour inclure la graisse du cuit. Et ça, c'est pas possible. Parce que c'est fake ou? Parce que le cuit, c'est un safek. Racham, ils ont un doute. Itzterichra, la touille, c'est fake. Est-ce que la Torah fait un pasouk sur quelque chose qui est un safek? Le safek, elle est chez les Chachamim, elle n'est pas chez Moshe Rabbeinu, elle n'est pas chez le bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas de doute si le cuit, c'est une behema ou c'est une chaya. Donc, si le cuit, en vérité, si le bon Dieu, il sait que le cuit, c'est une chaya, donc le secret, c'est permis. Si le bon Dieu, il sait que le cuit, c'est behema, donc automatiquement, c'est inclus dans l'interdiction des chélèves de behema. Si maintenant, les rabbins, ils ont oublié qu'est-ce que c'est le cuit, bon, ils ont oublié, donc dans le doute, ils vont interdire. Ils interdisent dans le doute, mais la Torah ne se mêle pas de ça. Vous avez un doute, donc vous allez vous comporter les issos. Vous n'allez pas donner des punitions, parce que ce n'est pas sûr. Mais la Torah ne va pas dire dans le doute, interdisez. C'est pas sûr. C'est bon, enfin, que la Torah les dit dans le doute, il faut s'abstenir. On ne sait pas, on s'abstient. Mais ce n'est pas sûr que la Torah va donner un pasouk. Il se dira, les tout est fait, que tu crois que la Torah va donner un pasouk pour un safek. Et la main est obligée de dire, c'est un asmach tabal. En vérité, le kvi, c'est un safek. Kol chelef, c'est midrabanan, on dit, ça inclut les safek. Donc, Ashlekishel a raison, c'est un asmachta. On a dit, non, imishum halo iria, ça, c'est pas une preuve. En vérité, je peux dire, comme Ashlekish, comme Rabbi Yochanan, que le kol chelef, c'est une vraie dracha. Et le kol chelef, il vient de m'enseigner que la chatzishura surminatora. Et le kol chelef vient de m'enseigner que la graisse du cuit est surminatora. Alors, c'est pourquoi la Torah doit me dire la graisse du cuit assour minatora, mais étant donné que s'il est assour, c'est parce qu'il est behema, et s'il est behema, automatiquement, il est inclus. Non, cuit, berye bifnat, smahi. Ce Tana, il pense que cuit, c'est une autre espèce, une troisième espèce. Ça veut dire quoi? Normalement, on a dans la Torah deux espèces, behema et chaya. Il y a du behema, il y a du chaya. Il n'y a pas autre chose. Il y a des oiseaux. Il y a des poissons, il y a des shratim. Mais maintenant, chez les animaux, c'est behima et chaya. Et le cuit, on a un safek si c'est behima et chaya. Mais il y a un tane qui dit non. Cuit, ce n'est pas une behima. Ce n'est pas un chaya, c'est une troisième espèce qui s'appelle espèce de cuit. Donc, la behima, elle a des cornes comme une vache. Et comme ça, pas chute. Le cerf, les chayot, ils ont la corne de chaya. Il y a une troisième sorte qu'on appelle cuit. Maintenant, quel est le dîme de la graisse du cuit? Est-ce que c'est un sourd ou motard? Le roi, la Torah le dit, chélef, shor, kesef, va'ez, l'autochélou, shor, kesef, va'ez. Ce sont les trois animaux que la graisse est interdite. Le cuit, c'est une autre espèce. Donc, j'aurais pu imaginer que cette graisse est cachère. C'est pour ça que la Torah nous dit, kol chélef, la rabot, chélef, cuit. Donc, c'est une vraie dracha, la rabot, la chatzishur de graisse. Et la rabote, la graisse du cuit, parce que cuit, birya bifne atzmohi. Dis le teimahachi, parce que si tu ne vas pas dire ça, que ça existe un tana qui pense que cuit, c'est une espèce à part, Adam Ravidi Baravin, quand Ravidi Baravin, il a dit, af kol, la touye cuit, il y a un autre bright, le kol chelef, le kol dam, on parle vis-à-vis du dam. La Torah nous dit, Dam, c'est Asur, soit Behema, soit Chaya. Le sang, c'est pas seulement, c'est, le sang, c'est pas comme la graisse. La graisse, il y a son seulement pour Behema, mais la graisse de Chaya est moutard. Mais le Dam inclut Behema et Chaya. Boire le sang d'un cerf, c'est aussi Asur. Quel est maintenant le din, le dame du cui? Le dame du cui, est-ce qu'il est assur moutard? Alors, Ravine, elle apporte une braïte. Af, kol dame l'otochelu. Pourquoi tu dis kol dame? Le rabot, la touille cui, pour inclure le sang du cui. À la Gomorrah demande. Pourquoi j'ai besoin ribouille le son du cuit? Mais cuit se fait que où? Il se dira le ribouille se fait que. Le cuit, normalement, c'est ou un behima ou chaya. Et le son de behima yassour et le son de chaya yassour. Donc le cuit, il est ou ça. Donc c'est normal que son son, il est yassour. Il n'a pas besoin d'apporter un souk pol d'âme. Et le maï, et le biryashani. Donc c'est parce que ce tanné aussi pense que c'est une autre espèce. C'est ni un behima ni un chaya. Donc, j'aurais pu m'imaginer que le sang est permis. Comme c'est pas Behema Chaya, peut-être son sang est permis comme le sang d'un poisson. Le poisson, c'est pas un Behema, c'est pas un Chaya. Et bien, le sang, il est permis. La Torah n'a pas interdit le sang d'un poisson. Donc, le cuit, j'aurais pu m'imaginer que le sang, il est moutard. C'est pour ça que la Torah me dit, Kol dam lo tochelo, achanam et birya shani, parce que c'est une birya à part. Donc, il me faut un pasuk spécial que le sang, il est assur. Maintenant, les oiseaux, aussi le sang, il est assur. Il y a une grande question que le rabbin demande dans le Chumash. Pourquoi la Torah elle a interdit le chélef de manger? Il est marqué dans la Torah qui chélef natati lachem, je vous ai donné pour le brûler sur le misbéach. Le chélef, il fait la kapara pour l'homme. Le chélef fait la kapara pour l'homme, mais brûler sur le misbéach, c'est pour ça que la Torah elle a interdit de manger. Quelle est la liaison? Ça, c'est Inyan. Ça, c'est, il faut comprendre la logique de la Torah, que la partie chélef qu'on met sur le misbéach, ça, c'est assur de manger. C'est pour ça, pas tous les chélef de la bête sont interdits de manger. La graisse de la poitrine, il y a différentes graissimes dans la bête qui sont permis de manger. C'est seulement la partie chélef qu'il faut mettre sur le misbéach, c'est ce chélef qui est assur de manger. Et seulement la graisse des behéma. Mais la graisse de chaya est permis de manger. Pourquoi? Parce que la chayot, on ne met pas sur le misbéach. Comme ça, il est marqué dans le chumash mefourash. Chelef, behima, il est assur de manger, qui ota natat ilachem, parce que je vous ai donné pour mettre sur le misbéach. Maintenant, quel est le din de sang? La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de boire le sang. Quelle est la raison du sang? Il est marqué aussi dans la Torah, parce que le sang est donné le chaper à nafshotichem à la misbéach. Le sang, on jette sur le misbéach. Et comme le sang jette sur le misbéach, vous n'avez pas le droit de boire le sang. Quel est le rapport? Parce que je mets deux gouttes, deux, trois gouttes sur le misbéach. Bon, ça, c'est une liaison profonde. Parce que le sang, il est fait pour jeter sur le misbéach, donc c'est assur de boire. Donc, le rabbin, il demande, mets le sang de chaya. Une chaya, on ne met pas sur le misbéach. Donc, la Torah, elle aurait dû permettre le sang de Chaya. Et pourtant, le sang de Chaya, et pourtant, le sang de la Chaya, il est assur de boire. Comment ça se fait? Pourquoi pas la graisse? Parce qu'on met sur le misbéach, elle est interdite de boire, manger, parce qu'on met sur le misbéach. Et la graisse de Chaya, qu'on ne met pas sur le misbéach, est permis de manger. Et quand elle arrive au sang, aussi le sang de Mehema. Aussi le sang de Chaya, il a sourd de boire, malgré qu'on ne mette pas tout le sang sur Mishbeach, le sang de Chaya. Ça, c'est le kushia du Ramban. Qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Et le sang des oiseaux, quel est le sang des oiseaux? Aussi, ça sourd de manger. Le sang des oiseaux, aussi, on met sur le Mishbeach. Oui, c'est juste. Mais qu'est-ce qu'on répond? Quelle est la différence entre le sang et la graisse? Alors, c'est possible que le sang, il y a une deuxième raison pourquoi il ne faut pas manger. Pas seulement parce qu'on met sur le misbéach. Il y a une deuxième raison. La graisse, toute la raison, c'est parce qu'on met sur le misbéach. Mais le sang, peut-être, il y a une autre raison.
On peut mettre le sang, on peut mettre le sang du poisson. Il est caché, le sang du poisson.
Ouais, ouais. Le sang du poisson, ça, c'est autre chose. Ouais.
Parce que le sang, c'est comme si on mangeait d'un animal vivant. Et c'est interdit de manger d'un animal vivant.
Le sang, il est comme une... parce que l'âme, il est dans le sang. Hadam hu nefesh. Il est marqué ça aussi dans la Torah. Hadam hu nefesh, velo tochal ha nefesh im basar. sur le sang, il y a une deuxième chose, c'est le nefesh. Il ne faut pas avaler le nefesh. Et si quelqu'un cuit le sang, est-ce qu'il peut le manger? Dam shebishlo, machloket rishonim, nous le passons à la chah, on est posek. Dam qu'on a cuit, la Torah n'a pas interdit de manger. Ça montre le dam cru. Bon, d'accord, on va arrêter ici.